I'm Stan Sakai and you're listening to La Voix de Bulle.
Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast bimensuel qui est à la BD ce que Madrange est au jambon. Le podcast des stars.
Ouais, non, avec une intro comme ça, ça...
Ouais, hein, tout de suite, on met on
est au taquet, on est à fond.
Une émission riche en plein de choses, avec les news avec Merton. Déjà, on va vous donner les résultats du concours Le Chômeur et sa belle, puis les news avec Merton. On enchaîne avec Dans les bacs, on va parler de New York 47, La chambre de l'Otréamont, Daredevil Reborn, le tome 3 de Lock and Key, une splash page exceptionnelle sur Usagi Yojimbo avec une interview de Stan Sakai, un online surprise, parce qu'on aime bien les online surprises. Et pour vous parler de tout ça, je suis avec Thio qui va m'accompagner pendant tout cet enregistrement. Salut Thio.
Hello.
Ça va?
C'est moi.
La patate? C'est
ouais,
la patate? La digestion qui est en caisse?
Ouh, ouais. C'est en fait, c'est l'île flottante qui...
Ah, l'île flottante qui passe mal. Ah, dur.
Ouais, c'est dur.
Et donc, on va commencer tout de suite en vous donnant les résultats du concours Le Chômeur et sa belle.
Yeah! Il y a des gagnants.
Putain, ouais, et puis il y a des participants. Hein. Le concours s'est retrouvé sur des sites de concours et vous avez été plus de 850 à participer. C'est assez hallucinant. J'espère que vous écoutez l'émission maintenant, hein, les 850 qui découvraient les parasites de concours. En tout cas, nous, on a été contents. Bon, il n'était pas très difficile ce concours. Les questions étaient simples, n'est-ce pas, Thio?
Tout à fait, vraiment tellement facile que je n'ai même pas voulu le faire.
Voilà. Et donc, on peut.
Surtout que je n'avais pas le droit, en fait. Donc.
Ouais, on peut féliciter. Alors, j'ai des fois que les noms, des fois qu'un bout de nom. Mon formulaire n'était pas top. Hein. Donc, nous avons Bessonnet, Zirem. Et David Mogère, donc, qui remporte un album Le Chômeur et sa belle, et même CBD devrait vous contacter pour vous transmettre tout ça. Bah, je crois que c'est
bientôt.
Bon.
Bientôt, ils devraient vous contacter.
Je crois que c'est bon, là. D'ailleurs, ils ont lancé le tome 2, d'ailleurs, sur même CBD du Chômeur et sa belle. Bon, bah, je crois qu'on est OK là-dessus.
On est OK là-dessus.
Bah, on va faire appel à Merton.
Donc, je voulais le lancer, hein, c'est ça que tu as dit.
Lançons Merton.
C'est les news.
Bonjour Merton.
Hello à tous.
Hello.
Bien, aujourd'hui les news sont un peu plus tranquilles, le festival d'Angoulême s'est un peu calmé, y a pas... mais il y a quelques gros trucs dont on va parler, mais on va commencer par la petite news corporate. J'aime bien commencer avec les news avec Merton, sans Merton, tu vois.
C'est ça, voilà.
C'est intéressant.
J'ai vraiment l'impression de servir à rien.
Voilà, comme ça il va pouvoir faire... Non, normalement tu dois t'extasier devant ce qu'on va annoncer là.
D'accord, très bien, je note.
Le concours de l'épisode numéro 50. On a déjà reçu quelques réponses, ça fait vachement plaisir. Thio les a pas encore vues, il faudra que je lui montre. Ouais, il y en a une.
C'est sympa de nous prévenir.
Ouais. Et en fait, on rajoute 4 BD, parce que Thio aussi a fait ses fonds de tiroir.
C'est mes fonds étagères, je suis désolé, mais voilà. J'ai pas beaucoup de doubles.
Voilà, mais tu as du double de qualité.
Ouais, il y en a un dont je suis super fier.
C'est... Donc, on rajoute 4, garde-le pour la fin, celui dont tu es super fier. Okay. On rajoute 4 bouquins au concours.
Un truc,
on arrive à 28 bouquins.
Waouh!
Merci, tu le
fais trop bien, dis donc. Donc, Le Code Hammurabi, un fiction serial killer chez Soleil. Ça, j'en suis pas très fier. Après, on a un Thanatos tome 3, en récit complet, c'est Mystère sur le Lusitania, un truc comme ça.
Ça, on l'a chroniqué, donc vous savez tout le bien que tu en penses.
Et que Pied déteste. Après, vous avez un Tunique Bleue, et là, c'est. Ça, c'est le livre de ma jeunesse, j'adore les Tuniques Bleues, je suis un fan.
Ouais. El Padre.
Et après, vous avez un Boulet Bill, le meilleur Boulet Bill. Globetrotter.
Une histoire complète, c'est-à-dire que c'est pas des gags en une planche, t'as vraiment une histoire complète de Boulet Bill et franchement il est très très bon, j'en garde un très très bon souvenir de celui-là. Bah voilà, c'était une news corporate. Donc vous pouvez participer, on vous rappelle le concept si vous avez oublié, vous nous écrivez à concours@lavoixdesbulles.fr en nous envoyant une pub, vous pouvez faire ce que vous voulez, on s'en fout que ce soit bien fait ou mal fait. Ce qu'on va noter c'est si ça nous amuse ou si ça nous amuse pas. Ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'audio, ça peut être du dessin, de la poterie. Ça peut être un site internet, un jeu, si vous êtes trop fort codeur de jeu et que vous voulez faire un jeu à la gloire du 1A Club. Le but, c'est que vous disiez du bien de nous, mais vous avez le droit en plus de faire de la mauvaise foi franche. Genre, oh, le 1A Club, c'est le meilleur podcast du monde. Voilà, c'est pas grave.
On n'a peut-être pas trop d'idées quand même. Hein.
Ouais, c'est vrai. Donc voilà, nous serons heureux de recevoir toutes les participations, parce que nous, ce que j'ai reçu, en tout cas, tu verras tout à l'heure, c'est super drôle.
Moi, j'ai déjà fait votre pub un peu partout. Hein.
Ouais, je sais, sur Geek Inc.
Non, mais voilà. Puis moi, je peux même pas participer, j'ai bien compris, très bien.
Ouais, non, mais tu peux continuer. Non, la pub, voilà. Merton a quand même parlé de nous dans Geek Inc. numéro 116. Allez voir Geek Inc. numéro 116, Merton y est superbe. En plus, il sent le coiffeur. C'était exprès pour l'émission, c'est super.
C'est exactement ça.
Voilà. Donc,
ok.
On va aller sur des sujets un peu plus graves.
Ben oui, un peu moins drôle, oui, en tout cas.
Delcourt et Glenna quittent Isneo.
Voilà. Alors, Isneo, on s'en rappelle, hein, c'était ce grand projet de tous les éditeurs qui s'étaient dit « Ah là là, le piratage de la BD, c'est mal, nous aussi, on va aller sur l'Internet ». Et ils s'étaient tous regroupés pour faire une plateforme, Isneo, qui est plutôt sympa, parce que aujourd'hui, avec leur formule d'abonnement, là, si tu t'abonnes pour un an, tu peux avoir jusqu'à 15 BD en lecture par mois pour moins de 10 euros quand même. Donc pour découvrir des trucs, c'est quand même, je trouve, c'est pas mal.
Très bon plan.
Combien de BD par mois ?
15.
Tu peux lire 15 BD par mois pour 10 euros, en fait, si tu t'abonnes pour un an.
Ah ouais, non, c'est quand même... Et après, tu les gardes en...
Je crois pas, par contre.
C'est que de l'emprunt.
C'est ça. Mais en tout cas, c'est quand même... Enfin, voilà, on est au début d'un truc qui pourrait peut-être faire un abonnement sympa, quoi.
Pour un modèle numérique, c'est un bon départ, déjà, je trouve.
Voilà, c'est ça. Là, on touche du doigt quelque chose, et donc ça se lançait tranquillement. Et Delcourt et Glénat ont décidé de quitter le navire avant même que, je dirais, le modèle ait le temps de se lancer. Du coup, il n'y a plus rien de Delcourt et Glénat sur la plateforme. Pareil pour Soleil, du coup, c'est la même chose. Et là, eux, ils sont partis vers Hachette Livre pour faire numériser tous leurs bouquins, vu que Hachette, c'est l'un des plus gros numérisateurs du monde. Ils ont des contrats avec Google, ils ont des contrats avec pas mal de boîtes comme ça. Donc, je dirais, à voir ce que ça donne.
Moi, ça me fait me poser beaucoup de questions, parce que Isneo avait l'avantage d'avoir une plateforme web, donc qui est accessible sur tout type d'appareil, sur tout support, d'avoir une plateforme qui marchait, qui était en place. Hachette, je suis au courant de rien. Il me semblait qu'ils avaient une offre déjà avec Apple et eBooks, mais dans ce cas-là, il faut avoir un iOS, et je ne peux donc pas le dire avec mon superbe Asus Transformer Prime. Et voilà. Et donc, c'est un peu dommage. Et l'autre question, moi, surtout, que ça me pose, c'est les gens qui avaient acheté des épisodes de Walking Dead sur la plateforme, qu'est-ce qui se passe ?
Mais ça, on n'a pas encore vraiment les réponses à toutes ces questions. C'est-à-dire que Hachette gère la distribution en numérique. Donc, à mon avis, ça va être la numérisation, et puis peut-être ce sera sur les serveurs d'Hachette, quoi. Donc, à mon avis, sur les sites de Delcourt, Glénat, tu pourras soit acheter le bouquin en normal, soit en version numérisée. Puis après, tu l'auras certainement sur Amazon ou des trucs comme ça en version PDF.
Alors moi, ou Kindle.
Ouais, enfin voilà, Kindle. Ouais.
Kindle, ça bon, après, blanc, non?
Non, Isneo. Kindle. Il y a le Kindle Fire qui est sorti aux États-Unis, qui est un Kindle couleur.
Ah, voilà.
Sur Android.
Pour l'instant, chez nous, il n'y en a pas, quoi.
Voilà.
Non, pas pour le moment.
Ouais, si tu veux, acheter une BD en noir et blanc, ça va être un peu.
Non, mais Kindle couleur, ça marche, parce que Kindle, c'est une application que tu peux installer sur n'importe quel système Android.
Ouais, sur n'importe quel système.
Okay. Non, moi, je voyais le Kindle, juste l'objet.
Pas l'objet. Ouais. Il y a l'objet qui existe, mais il y a aussi l'application que tu peux mettre de partout. Amazon, ils se mettent partout. Ils sont partout, Amazon.
Ok.
Ouais, non, mais ils font des trucs bien. Mais après, quel va être le tarif, déjà ? Parce que ça, c'est aussi la vraie question.
Ils annonçaient dans le modèle... entre 20 et 30% moins cher.
C'est ça, mais 20
Sauf et 30%. Sauf que moi, pour que ça marche, il faudrait que ce soit entre 20 et 30% du prix d'origine.
Mais en fait, ils sont tous en train de se dire, allez, 20, 30% moins cher, c'est pas mal, les gens se diront quand même qu'ils ont une remise et tout. Mais, enfin, comme je dis, enfin, moi, si on me dit, tu peux acheter tel BD, bon après, c'est sûr, tu l'as, mais pour 20 ou 30% moins cher que ce qu'elle coûte, ou si tu peux découvrir 15 BD par mois sur Isneo, je sais ce que je vais faire, moi, en tant que lecteur, tout ça. Parce que je sais que derrière, je vais les acheter en format papier, parce que la BD, ça reste quelque chose, enfin, je sais pas, moi, j'aime bien avoir le papier. Alors, peut-être que la nouvelle génération n'est pas pareille, Mais je me pose de sérieuses questions sur est-ce que c'était la bonne chose à faire, quoi, vraiment.
Bah, moi, j'aime bien avoir le papier aussi, mais c'est vrai que l'avantage du numérique, c'est pour moi vraiment la découverte. Donc, on va pouvoir découvrir des choses, on va pouvoir. Enfin, il y a un intérêt là-dessus. Même si, faut être franc, le format Delcourt, par exemple, en dehors de tout ce qui sort en comics, n'est pas super adapté à de la tablette, hein, à l'heure actuelle. Ouais.
Non mais ça c'est sûr, mais de toute façon du coup, enfin qu'ils le sortent en PDF ou Isneo, ils avaient quand même une liseuse là qui était pas mal, enfin et puis sur les tablettes, enfin ça rendait bien. Alors je sais pas, c'est peut-être que moi j'aime bien Isneo et que du coup
l'idée d'avoir tout
épidermique. Mais voilà, il y a tout, t'as ton catalogue, enfin voilà, t'as juste à chercher, c'est plutôt, bon, c'est un peu le bordel quand même chez Isneo.
Oui, voilà, mais c'est vrai que l'idée d'avoir tout qui était regroupé en un seul endroit, et l'idée des éditeurs de BD françaises qui se regroupaient pour lutter contre les géants Amazon et Apple, je trouvais que ça faisait, ouais, on est classe, on est ensemble, on est tout ça, ouais, on forme un pack.
Non, enfin, surtout, c'était une bonne idée dans le sens où tu n'avais pas à prendre 10 abonnements en fonction avec les 10 éditeurs français, ouais. Quoi.
Non, mais là, ce qui se passe, ça, c'est le pic Mourad s'est cassé de chez Soleil. Tu vois? Ils avaient un esprit d'équipe de rugbymen, tu vois, avant.
Maintenant,
c'est foutu, quoi. Ils se sont séparés, c'est la Discord, c'est une équipe de foot française maintenant.
Tu vois, en fait, moi, je me dis que ils ont lancé des trucs qui étaient des bonnes idées. Enfin, je pense vraiment qu'Isneo, c'était une bonne idée. Et oui. Là, on est sur un truc et ça y est, c'est de nouveau le bordel et on risque de reprendre du retard sur la BD numérique, quoi. Bon, parce que d'un autre côté, d'autres éditeurs commencent à rejoindre Isneo. Je pense aux Humano, là, qui nous ont envoyé un communiqué pour dire, ah, nous, on va chez Isneo parce que c'est trop bien. Donc voilà, mais si on a si à terme Isneo ça devient une plateforme de petits éditeurs, les Humano c'est pas si petit que ça, mais puis ils ont encore Dupuis, ils ont encore pas mal de
on va se retrouver comme derrière. On va se retrouver comme pour la distribution.
C'est ça. Hein.
On va avoir un distributeur des indépendants. Là c'est le comptoir des indépendants actuellement. On va avoir les gros distributeurs qui sont Hachette je sais plus quel est l'autre. Il y en a un deuxième gros. Enfin tout ce qui est Interforum.
Non, mais
je parle des distributeurs. Je parle d'Interforum, les trucs comme ça.
Ah oui, d'accord.
Tu vois, vraiment, on va avoir des canaux de distribution différents en fonction du truc. Sauf que nous en librairie, on voyait pas le comment. On voit pas.
Oui, tu vois pas la différence.
On voit pas le circuit, tandis que en numérique, on verra que on est sur des supports différents.
Bah ouais, et je suis pas sûr que ça aide à la visibilité non plus de la BD francophone, quoi, tu vois, il y a un moment, en termes de visibilité, cette idée de portail où il y avait tout, c'était quand même, voilà, il y avait un truc, quoi, mais bon, bah ça prend un peu l'eau, je dirais, à suivre, bon, enfin, soyons honnêtes, hein, Delcourt et Glénat avaient pas mis non plus des tonnes de BD hein, sur Isneo, ils
non,
avaient
mais c'est une histoire de principe, disons que moi, je pense que là, on est dans une année charnière pour tout ce qui est lecture de BD, principalement numérique.
C'est ça.
Et on va voir ce que ça donne. Je le disais, là, sur un tweet il y a pas longtemps, moi, mon baromètre de la lecture numérique, c'est pas de la BD, mais c'est pareil, c'est le même ordre d'idée, c'est Verber. Un livre de Verber, à l'heure actuelle, tu le trouves en occasion à 40 centimes. Tu le trouves en poche à 4,50€. Tu le trouves sur format Kindle à 16€.
Ouais. Ouais. Ça tout est dit. Non, mais je pense que tout est dit, ouais.
Tant que les bouquins de Verber, pour moi, voilà, c'est une grosse vente. C'est un gars, c'est une locomotive à faire du pognon. Tant que lui ne sera pas accessible en numérique, je pense que bah le reste ne sera au même niveau.
Ben non, parce que de toute façon, du coup, les gens achèteront pas de Kindle ou de tablette.
Sachant que surtout quand tu cherches télécharger Verber, le troisième lien, c'est un lien vers vers un téléchargement en PDF. Hein.
Ouais, ben non, mais enfin voilà. Mais moi, ça me rend triste parce que, enfin, comme tu dis, on est dans une année vraiment charnière et là, ben là, oui, là, on commence à revenir dans des logiques vraiment très très comptables. Et est-ce que c'est des logiques comptables à long terme? Je suis pas sûr, en fait.
Seul l'avenir nous le dira.
Exactement.
Une nouvelle encore triste.
Bah ouais, tu vois, année charnière pour la BD numérique,
ouais.
Comme tu le disais.
On est toujours dans le numérique, mais c'est un peu notre dada, le numérique.
Eh bien, c'est déjà un joyeux anniversaire. Hein, aux
Les autres gens ont fêté leur deuxième année.
Voilà, deux ans.
C'est plutôt pas mal.
Exactement.
Pour un truc que tout le monde disait que ça allait couler, c'est plutôt pas mal.
Ça fait deux ans que tout le monde dit que ça marchera jamais.
Ouais. Ça ne marchera jamais.
Ça ne marchera jamais. Mais du coup, Thomas Kaden a dit qu'il arrêtait.
Que fin juin, la deuxième saison des autres gens serait la fin des autres gens. Il prévoit un final de la mort. On va peut-être enfin savoir à quoi sert cette putain de boîte. Hein. Intérêt. Mon seul regret, c'est que mon abonnement s'arrête en mai.
Ah merde, non mais.
Et que donc je serais prêt à lui donner beaucoup d'argent pour connaître la fin, et il va m'arnaquer, j'en suis sûr.
Non, non, il a dit qu'il allait mettre en place des trucs spéciaux justement pour, tu sais, pour les derniers mois et tout ça.
Oui, oui.
Donc voilà.
Bah, ils ont toujours été super au niveau de leur offre, super carré, super propre. Ouais. Jamais avare. Enfin, il y a toujours eu
un. Non, ils sont super réglo hein, là-dessus. Hein. Enfin, voilà. Mais ça, là, on est dans un truc. Justement, enfin, on parlait tarifs et tout ça. Si les gens se sont abonnés à ce BD Novella, c'est justement parce que la politique tarifaire suivait, quoi.
Oui, non, mais 30 euros par an, des tonnes d'auteurs qui s'amusent à faire des expériences graphiques, qui, genre, moi je pense à Jérôme Daviau, par exemple, qui commençait à faire des trucs très classiques, qui est parti dans de l'expérimentation derrière, et ses derniers épisodes étaient mais, d'une beauté phénoménale. Pour le coup, je crois que sa prochaine BD va utiliser un peu le même style graphique. Tu découvres des gens dans tous les sens dont tu n'avais jamais entendu parler. Moi, j'ai découvert Sacha Gerg, comme ça, dont on a déjà parlé, dont je suis à fond. Donc oui, c'était une très 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 belle aventure.
C'est ça. Mais en même temps, moi, il y a le petit côté, bah c'est bien. Ils se laissent pas prendre par le succès et tout ça. C'est pas l'effet Friends, quoi, où le mec, enfin où ils ont fait 11 saisons et plus personne regardait à la fin. Là, et puis je sais qu'ils vont être capables de faire un super final. Ils nous ont prouvé que des idées ils en avaient et qu'elles étaient souvent bonnes et que pour faire sauter au plafond les lecteurs, il y avait, ils étaient.
Moi,
toujours
j'attends,
là.
J'attends le prochain, les autres genre, Lag Magazine ou Pochep, voilà. En général fait des trucs débiles et complètement rigolos. Où là, il va s'en donner à cœur joie, je pense. Il n'arrête pas de dépeindre Thomas Kaden comme un gars qui se la pète, toujours à bout de nerfs. Enfin, c'est.
Et c'est marrant parce que dans le dernier LAG Mag, il avait justement fait Thomas Kaden qui était là genre j'en ai marre, je vais tout laisser tomber.
C'est de la merde.
Voilà, c'est ça. Et là, du coup, l'annonce de l'arrêt, c'est vrai que c'est. Enfin, bah, il avait peut-être senti quelque chose, on ne sait pas.
Il faut savoir aussi que, bon, il voulait partir pas en pleine gloire. Il y avait un regret de Thomas Kaden qui est pas faux, malheureusement. Mais nous, en plus, les premiers, on allait dans ce sens-là. C'est qu'il regrettait qu'on avait plus salué le modèle économique que l'histoire.
Ben ouais.
C'est-à-dire qu'au départ, ouais. Sauf que moi, je me suis pris à l'histoire avec le temps. Et maintenant, bah, même si mes épisodes des autres gens, j'ai envie de savoir ce qui leur arrive. Il y a des intrigues qui m'intéressent plus que d'autres, toujours.
Oui, bah forcément.
Parce qu'il y a plusieurs intrigues en parallèle, mais ils ont réussi à me choper, quoi.
Mais je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est que si le modèle économique, si tout le monde peut lui poser des questions sur le modèle économique et tout, c'est que l'histoire a séduit. Enfin, tu vois, il y a un moment où c'est que c'était de la bonne BD, quoi, tout simplement.
Ben non, la vraie question qui doit se poser, c'est que c'est d'un point de vue économique, c'est que si des autres gens ne rapportent plus d'argent, et même si on va pouvoir acheter les archives, je pense, il va falloir qu'ils puissent maintenir les serveurs.
Non, mais c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que ça va continuer enfin,
bon, je, après, pense y a que ça, je pense qu'il y aura une autre forme, autre chose, quelque chose qui prendra la place.
Bah, y a les bouquins qui sortent de toute façon régulièrement. Donc, oui. Enfin, il va y avoir tout ça aussi qui va.
Mais bon, il va peut-être pas donner Thomas Kaden tous ses sous pour maintenir des serveurs.
Oui, non, on est d'accord.
Non, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y aura. Qu'ils lanceront une autre plateforme, quelque chose d'autre derrière.
Non mais je pense qu'il a déjà des idées pour après quoi. Ça, c'est voilà. Possible. Enfin bon, moi je croise les doigts et en tout cas bah, belle aventure et bien joué à tous ceux qui ont participé à ça.
Parce que en tout cas, moi ce que je peux dire c'est que enfin Mathilde elle va fermer sa gueule, il était temps. Hein. À se plaindre, oh là là, je suis riche, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout cet argent ? Ah si je m'achetais un village et que je baisais l'agent immobilier. Ouh, voilà. Ouais c'est ça.
C'est pareil si j'ai l'esprit. Gagné au loto.
Je recommande le dernier résumé par Aka qui s'est amusé à faire comme si les autres gens étaient en fait une partie de jeu de rôle et c'était un mec qui jouait Mathilde. Et que donc elle passe son temps à baiser tous les mecs qu'elle croise. Parce que c'est un mec qui la joue.
C'est ça. Enfin, en tout cas, enfin voilà, chapeau l'artiste quand même. Hein. Parce que là, avec tous les gens qui lui disaient que ça marcherait jamais et tout, il leur a bien prouvé le contraire et ça prouve que les gens sont prêts à payer pour lire de la BD, même sur Internet.
Voilà.
Donc ça ouvre
juste
quand même des portes.
Raisonnable.
Voilà, c'est ça. Il faut juste que le prix soit raisonnable. On est bien d'accord. À bon entendeur.
On continue dans les nouvelles rigolotes. Ouais, vive le monde, vive la France.
Ouais, c'est ça. Alors, on vous avait parlé de Pirate Sourcil, ce blogueur qui s'était un peu fait taper sur les doigts et avait dû censurer une de ses BD.
Ouais,
parce qu'il a
disons qu'il est spécialisé dans l'humour cynique, noir, à la limite du mauvais goût, voire parfois totalement dans le mauvais goût.
Non, moi je pense qu'il assume le côté mauvais goût et ultra trash. Hein. Enfin, voilà. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, c'est vrai que ça ne m'avait pas fait plus rire que ça, mais de là à faire censurer la BD parce que ça incitait à la pédophilie, il y a quand même une, je dirais, oui, il y a une marge, quoi. Eh bien, Pirate Sourcil a eu le plaisir de recevoir un matin la police chez lui qui est venue confisquer ses PC. Il a eu le droit d'être convoqué pour s'expliquer à propos de certaines des bandes dessinées qu'il avait fait sur son blog.
Voilà. Il a été convoqué à la gendarmerie parce qu'on ne pouvait pas le recevoir dignement au poste de police nationale ou... Alors, non, c'est juste une référence à un certain Dominique qui a eu un traitement de faveur vis-à-vis d'une garde à vue où il fait un standing pour lui quand même.
Alors, il n'était pas en garde à vue. Hein. Enfin, voilà, les mecs sont arrivés, ils ont
une convocation.
Ils lui ont dit qu'il avait rendez-vous. C'était le jour même ou le lendemain, quelque chose comme ça. Et il a été auditionné pour lui dire alors, tu es un sale pédophile. Voilà. Et bon, finalement, ils se sont rendus compte que non. Enfin, c'était quand même. Fallait pas être une lumière hein, pour voir que c'était des blagues, mais je dirais ça fait peur même au niveau général, quoi, parce que les mecs qui sont arrivés et qui lui ont fait retirer sa BD avec le psy, c'est eux qu'ont le pouvoir.
Ils lui ont fait censurer de trois autres planches derrière dans la foulée, parce qu'ils ont saisi son ordinateur, ils ont regardé ce qu'il y avait dedans, etc.
Ouais, ils lui ont fait censurer quatre autres histoires en plus. Voilà.
Moi, ce qui aurait tendance plus à me faire peur, c'est que pourquoi le délai ? Soit on fait de la vraie lutte contre de la pédophilie, on y va à donf, etc., et on y va direct, quoi. Mais on donne pas un mois de délai pour se dire « Ah tiens, on va le laisser faire ses trucs tranquille pendant un mois parce qu'on soupçonne que c'est un dangereux pédophile, et ensuite on y va ». Je trouve ça assez bizarre.
Mais en fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que, si tu veux, la police d'abord est intervenue et il y a un premier niveau d'action. Et après, ils ont dû continuer leur enquête parce que là, c'était sur demande du procureur, en fait.
D'accord.
C'est le procureur qui a dit aller chez lui récupérer son matos, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, il a censuré ses 4 BD. Il a jamais vu un juge, quoi. C'est ça aussi qui est un peu... Voilà.
Ah, oui.
Il a pas vu de juge. C'est-à-dire que ça s'arrête au niveau police. C'est la police qui dit t'es un pédophile ou t'es pas un pédophile. On passe pas par...
Alors, après, moi, je pense que... Je vais me faire l'avocat du diable. Peut-être qu'il a aussi fait pour éviter d'avoir à voir un juge. C'est-à-dire qu'il aurait sans doute eu gain de cause, mais t'as peut-être pas envie de claquer tes thunes, alors qu'il suffit peut-être de mettre un petit truc en disant « Ouh, censuré !» par l'agence de police.
Non, mais ça, on est d'accord que... Ouais, mais ça en dit quand même super long sur l'allopsie et tout ça, et tout ce que ça impliquer. C'est-à-dire que demain, n'importe qui peut voir les flics débarquer pour n'importe quoi. Enfin, c'est ce que je dis.
Il va vite falloir que j'efface des épisodes de Gigi de mon disque dur.
Gottlieb, quand il dessine des enfants qui jouent avec les boules du Père Noël... c'est passé dans des magazines, dans des trucs, et personne a dit ah, Gottlieb, t'es un méchant pédophile. Au pire, on lui a dit Gottlieb, t'es pas drôle, mais ça s'arrêtait là. Mais
ce qui est faux,
tu vois. Non, mais chacun son humour, hein, mais
oui.
Mais il y a un moment où merde, quoi. Enfin, ça reste de la BD. Il faudrait que les gens ils se réveillent un peu. Enfin, moi, ça m'hallucine, quoi, vraiment.
C'est, disons que ça allait un peu loin, je trouve.
Ah ben, c'est ça. Non, et puis ça ouvre la porte à plein de trucs, quoi.
Bah, disons qu'on se retrouve sur un sujet où là, c'est difficile, c'est qu'on n'est plus vraiment dans la loi, on est dans le jugement moral.
Ouais, c'est ça.
Et c'est assez délicat parce que qui peut se poser en à ce niveau-là, à moins que ce soit un juge, mais qui va avoir un cadre précis.
C'est-à-dire que normalement, la morale est ce qui dicte la loi, et le juge est là pour voir si ce que tu as fait est conforme à la loi. C'est-à-dire que la loi, c'est toujours suivant la morale, ce qu'on veut. Voilà. Et là, en fait, non, on s'arrête au niveau en dessous, c'est-à-dire la police, quoi. C'est juste la police. Donc, il suffit que le mec t'aime pas ou qu'il aime pas ce que tu fais, il arrive et il vient te faire chier, quoi.
Ça, ça aurait été quand même cool d'avoir un billet de Maître Eolas là-dessus, parce qu'il aurait peut-être mis les choses au clair, on aurait peut-être compris qu'en fait, ça s'est pas passé exactement comme on l'a dit, parce qu'il y a aussi le ressenti que tu peux avoir derrière, et de temps, souvent, il a tendance à te dire, attendez, la loi c'est comme ça, voilà comment ça s'est passé, voilà ce qui a été bien, voilà ce qui a été pas bien, etc.
Non, mais là, là, on est clairement dans, dans le cadre de la LOPSI, en fait. Donc, oui. Il suffirait que tu relis son, son, le long billet qu'il avait fait sur la LOPSI, on en est là. C'est-à-dire que là, ça commence à se mettre en place, quoi.
Qu'est-ce qu'on va rigoler?
Ben ouais. Mais on le voit, enfin la censure sur le web, enfin outre ça, ça commence à être un peu partout et de pire en pire quoi. Donc faut rester vigilant quoi.
Enfin, une news un peu plus joyeuse.
Ouais, un peu plus cool.
Ouais, fun. Nous avons eu l'arrivée du nouveau. Enfin, ce n'est plus le teaser, là, c'est le trailer.
Là, c'est, ouais, c'est carrément le trailer.
La
ouais.
bande-annonce, ce n'est plus la guiche, c'est la bande-annonce de The Avengers.
Ouais.
Le film réalisé par Super Geek Joss Whedon.
Alors, vous en avez pensé quoi? Ça claque, hein.
Ça claque, ouais. Ça claque. Bon, comme tout à l'heure on disait en off, c'est que là, c'était... Moi, c'est... Edward Norton n'est pas là pour jouer Hulk, ça me dérange un peu. Mais sinon, c'est vrai que franchement, ça envoie.
Non, mais c'est-à-dire qu'il nous avait déjà filé un super une aguiche, enfin voilà, pendant le oui. Super Bowl. Enfin, we have an army, we have a Hulk. Enfin, c'était juste énorme. Et là, on reste dans ce.
Ouais, mais ça me là vraiment, ça m'a branché encore plus moi parce que j'ai reconnu ce que j'attendais moi d'un Joss Whedon sur un film comme ça, c'est son talent pour gérer des équipes.
Ouais.
D'un point de vue scénaristique, d'un point de vue réalisation, ce qu'on a pu voir dans les dernières saisons de Buffy, dans un Angel, dans un Firefly par exemple, je veux dire la série avec 10 personnages principaux, ouais. Dans un l'Alien 4 par exemple, c'est lui qui l'a scénarisé. T'as une équipe qui était intéressante. Quand tu compares à tous les gars de Alien 3, on sait même plus qui était quoi là. Au moins ils étaient caractérisés dans Alien 4 les personnages. Donc ce talent-là, et on sent que il a commencé à mettre en place vraiment dans cette bande-annonce, il arrive vraiment à te montrer chaque personnage, à te montrer son point fort, son intérêt, les conflits qu'il va y avoir entre eux, et la phrase clé.
La phrase de.
Nous ne sommes pas une équipe, nous sommes une bombe à retardement.
Ouais, mais c'est ça. Enfin, de toute façon, ça a toujours été un peu ça, même dans le comics. Mais moi, j'ai super hâte de le voir. Là. Enfin, vraiment, il faut que ça arrive vite. Quoi. Ouais. Là...
ouais, et puis il y a des putains d'acteurs et c'est classe.
Et puis il y a Œil de Faucon qui avait eu un micro-rôle dans Thor.
Ouais.
Dans Thor,
ouais,
il avait joué 2 minutes. Et on ne l'avait même pas appelé d'ailleurs.
Oui.
Il n'avait même pas de costume. Il avait juste un arc et il était en haut d'une grue.
Et il y a l'agent Coulson.
Et il n'avait même pas tiré une flèche.
Et il y a l'agent Coulson.
Qui est quand même... Non mais enfin, il y a tous ces trucs. En fait, moi j'ai vraiment tous les films, j'ai tout vu et tout se mettait en place doucement mais sûrement. Et là, pour moi, ça va être l'apothéose. Donc ça a intérêt d'être bien parce que voilà, je mise beaucoup sur ce film quoi. Enfin, j'ai beaucoup d'espoir.
On verra ça. En tout cas, petite bande-annonce sympathique que je vous invite tous à regarder. Je crois qu'on a fait le tour.
Je crois aussi.
Merci Merton pour cette séance de news fort intéressante.
Ben, merci à vous.
Le mois prochain.
C'est
ça. On rappelle qu'on peut te retrouver sur ton blog Merton fait sa bulle qui fête ses 2 ans.
Non, un an.
Un an, 2 ans, c'est nous.
Deux ans, c'est vous. Un an, c'est. Voilà. Moi, j'ai 1 an. Ouais!
Donc on se retrouve sur Merton fait sa bulle, sur BDO aussi où tu mets des news régulières. Et on se retrouve le mois prochain. Allez, ciao.
À très bientôt. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Dans les bacs. Nous poursuivons notre visite de l'univers de Blog 109 avec New York 1947 de Brujas et Touloat pour changer. Toujours les mêmes auteurs, hein, ils sont au taquet, ils ont eu un bon débit hein, au niveau des sorties. New York 1947, donc nous sommes dans une BD qui est d'un point de vue du genre est assez simple, c'est du post-apo d'action, qui va nous conter l'histoire d'une équipe qui est envoyée un petit peu de force à récupérer un casier dans une banque à New York, sauf que New York a été dévastée par la bombe,
puis
par un virus,
et qui reste pas grand-chose,
à part des monstres.
Ouais. Quelques humains.
Et donc les mecs se retrouvent là-dedans. Alors c'est compté alternativement par un docteur, qui est le docteur de l'expédition, et les autres personnages qui de temps en temps ont leur point de vue en off, en voix off, qui nous racontent un peu tout ça. Et donc, on suit leur avancée dans un endroit qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne savent pas trop ce que faire. Et ils ont surtout un chef qui est un gros connard, qui est Der Ritter. C'est le chef, qui est le vrai bon gros facho de base. Parce que ces mecs-là ont été envoyés par...
Heinrich.
Mystérieux, vu qu'ils nous le disent qu'à la fin.
Oh non.
Si.
Oh non, 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 il n'y a pas de spoil. Non, je ne suis pas en train de spoiler. Tu le sais d'entrée qu'ils ont été envoyés par lui. C'est quand le docteur il en parle. Tu supposes en tout cas très fortement que c'est lui.
Bah, il est toujours en arrière-plan, tu vois pas sa tête, il n'y a pas son nom qui est cité.
Ouais, mais regarde la posture, la tenue, tu vois bien que c'est lui là. J'ai reconnu la veste en cuir.
Par un mystérieux chef militaire, dieu de commander des chevaliers teutons SS nazis que je mélange tous dans cette série car je suis pas très doué à ce niveau-là. Et donc on a cette équipe où chacun est surnommé par son rôle.
Son utilité.
Son utilité. Donc on a le docteur, on a... Après c'est que les mots allemands, j'ai du mal avec l'allemand.
Der Sniper,
ouais.
Der Spitzel, Der Professor, Der Journaliste, Der Spécialist.
Voilà. Chacun avec leur
spécialité.
Et on suit leur avancée. On est vraiment dans de l'action, avec un petit côté horreur quand même.
Bah oui, parce qu'on a quand même les suites du virus, qui a transformé quand même une bonne partie, je crois la moitié à peu près, 45-50% de la population de New York.
En monstre.
En monstre. Enfin, tueur, pour ceux qui avaient survécu à la bombe.
Voilà.
Ce qui n'est pas d'autant plus donné à tout le monde.
Il ne reste pas grand monde, quoi. Et donc, on les voit se balader, non, c'est ruine. Pour le scénario, j'ai mis que c'était du Carpenter. On a un bon... Bah, déjà le titre.
Ouais, New York 1947. Oui.
Voilà, il y a un petit côté assaut sur le...
Comment, Central 13.
J'allais dire, je cherchais Precinct, comment je dis dans... Tu vois, depuis que je fais des interviews en anglais.
Comment je la pète.
Precinct 13.
D'ailleurs, en fait, tu mettras la vraie version de l'interview. Voilà, pour
s'en
moquer un peu de toi, quand même.
Ouais. Vous verrez après. Et donc, voilà ce que ça donne. Moi, j'ai trouvé que c'était un scénario, franchement, qui m'a le plus plu de tous ceux que j'ai lus dans des histoires à côté de Box 109. Parce que, déjà...
Là, tu sors de la guerre, en fait. C'est peut-être ça qui t'a plu, quoi.
Ouais, mais puis on se retrouve bien dans les personnages. C'est plus clair au niveau de l'histoire. Le seul reproche que je ferais, c'est qu'on ne peut pas comprendre la fin si on n'a pas lu Box 109. C'est le seul récit qui est sorti à côté de Box 109 qui n'est pas indépendant.
Ouais. Peut-être d'un point de vue de l'histoire, oui. Après,
mais juste pour la chute, hein, parce que c'est juste pour la chute qu'on ne comprend pas. Le reste, on comprend peut-être tout ce qui se passe, mais la chute est incompréhensible si on n'a pas lu Bloc 109.
Je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est vrai que la fin, si on est totalement vierge de tout Bloc 109, elle reste un petit peu incompréhensible. Même si on se doute bien qu'il y en a un quand même qui est un beau salaud.
Voilà.
D'un point de vue du dessin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi ?
Il y a un réel progrès. Déjà dans la couleur, il s'est permis un petit peu plus de variété dans les couleurs, dans les teintes. Il continue à jouer beaucoup, peut-être un petit peu trop avec du Photoshop pour les effets d'action, les flous, etc. Et puis surtout, bah, c'était un peu le reproche que je faisais jusqu'ici à chaque fois à Bloc 109.
Les personnages.
Ouais, là, les personnages sont vraiment bien démarqués. On les reconnaît bien les uns. Enfin, ils sont vraiment tous bien typés et on reconnaît bien chaque personnage. C'est très bien géré à ce niveau-là. C'est beaucoup, beaucoup plus clair que les autres. On sent qu'il y a eu un réel progrès, qu'apparemment ils ont aussi pris en compte les critiques qu'ils ont reçues pour s'améliorer et faire une BD de bien meilleure, je trouve, qualité que les précédentes, enfin d'un point de vue technique en tout cas. Après, je parle pas au niveau de la narration, de l'histoire, etc., mais vraiment techniquement, je trouve ça vachement plus propre, quoi.
Moi, je trouvais ça beau. Voilà, c'est clair qu'il y a une vraie progression dans le dessin, dans les couleurs. Par contre, j'aurais quand même une grosse tristesse, c'est que donc sur l'ensemble du bouquin qui fait quand même 66 pages, sans compter le making-of quoi derrière, il n'y a qu'un seul vrai décor qui est dessiné. C'est celui de la double page d'entrée. Ensuite, tout le reste, ce ne sont que des flous ou des très légers traits de où on voit un bâtiment se dessiner. Alors, je suis d'accord que je sais que c'est à peu près l'enfer hein, pour les dessinateurs de faire des villes post-apo en entier avec les vitres cassées et tout. Mais peut-être en rajouter peut-être un peu, parce que là, sur tous les décors, il n'y a rien, quoi.
On a les personnages... Je pense que ça explique aussi les délais qui entre les albums qui sont...
Ouais, mais je dis pas t'en mettre dans toutes les cases, quoi. Mais peut-être ouais, se vendre un petit peu pour un petit, quoi. Y a... tu vois, même là, même quand il y en a, c'est vraiment un flou, quoi. C'est, t'as les grands traits et t'as pas...
Moi, ça m'a pas perturbé, ça m'a pas choqué. C'est très à l'américaine. Alors, quoi,
ouais, donc, mais donc c'est sûr que du coup, ça met vraiment l'action en avant. L'action, elle est archi présente sur toutes les cases, parce qu'on a toujours les personnages qui sont presque collés à nous, quoi. Donc, non, c'est dynamique, mais voilà, petit reproche, j'aurais bien aimé avoir quand même un petit peu plus de plan large, quoi. Avec un beau décor.
Voir un peu plus l'environnement, en fait.
Voilà, exactement. Là, c'est vraiment trop de plans rapprochés, quoi.
Ok, ben donc globalement moi, mon mot hein, c'était au niveau du trait c'était péchu. Voilà, il y a vraiment un côté péchu. C'est on y va à donf quoi.
Dynamique.
Ouais. Ça marche bien. Il y a l'utilisation de la note de rouge pour un des personnages qui là pour le coup nous fait penser à du Spielberg.
À Lisa Schindler.
Voilà.
On a pensé à la même chose.
Ouais, je pense que c'est volontaire d'ailleurs.
Oui, là, je crois qu'il n'y a pas de doute. Hein.
Si vous nous écoutez, dites-nous si c'est volontaire. On pourra voir ce que ça donne. Et puis en plus, voilà, c'est un très bel album avec une très très jolie dédicace en plus.
Et nous vous parlons maintenant de La Chambre de Lautréamont chez Futuropolis de Edith et Corcal. Le premier roman graphique publié en 1874, enfin dans son édition intégrale. Voilà ce que le premier de couve nous invite à découvrir. Alors, l'histoire. Donc, nous sommes dans un Paris de la fin du 19e, où on rencontre plusieurs grands auteurs de l'époque. Voilà, pour situer un petit peu le milieu social dans lequel on va naviguer. Et on va suivre plus particulièrement donc l'histoire de...
Auguste Bretagne.
Auguste Bretagne, qui était de Bretagne, mais qui, quand il est devenu écrivain, est devenu Auguste Bretagne. Auguste Bretagne, donc, il va rencontrer donc, Rimbaud, Verlaine...
Le cercle zutiste. Verlaine, peut-être pas encore, non ?
Il y passe à un moment, ils en parlent, ouais.
C'est un peu tôt, je crois, pour Verlaine, mais c'est possible. Le cercle zutiste.
Le cercle zutiste, qui sont en fait les précurseurs des...
Dada.
Dada, puis...
Des surréalistes, poursuivis derrière.
Avec André Breton. Alors, cette histoire nous relate la découverte de la première bande dessinée, en fait.
Il y a une sorte d'imbrication super difficile, en fait. C'est difficile de raconter. Au premier degré, on suit l'histoire d'Auguste Bretagne, qui s'est installé dans une chambre...
qui est la chambre en fait d'un poète qui est décédé et qui avait écrit un bouquin exceptionnel.
Les chants de Maldoror.
Les chants de
Maldoror.
Maldoror.
Donc voilà, ça c'est l'histoire qu'on va suivre. Et apparemment, cette chambre serait hantée et il aurait le fantôme de Lautréamont, donc cet auteur, qui l'entrait. Et il essaie de comprendre ce qui se passe. Et lui, c'est un feuilletoniste à la ramasse, quoi, hein, qui fréquente les cercles zutistes. Mais tout le monde se fout de sa gueule parce que tout ce qu'il fait, c'est écrire du roman bon marché.
Dans une gazette.
Voilà. Ça, c'est le premier degré.
Voilà. Donc l'aventure commence. On nous dit que dans la lointaine. Dans le lointain pays des kiwis, non, en Australie.
Ouais, t'es pas loin.
J'étais pas loin, mais c'était les kiwis, tu vois. Donc en Australie, un Français a découvert un roman graphique très 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 ancien. Et
c'est ce qu'on va lire là.
C'est ce qu'on va lire.
C'est la chambre de Lautréamont.
Voilà, c'est la chambre de Lautréamont. Et donc là, voilà, c'est la question. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas.
Il y a un gros travail sur la mystification. Déjà, une chose qui est sûre, c'est que clairement, Edith n'était pas née à l'époque de la sortie du bouquin, donc c'est pas elle qui l'a dessiné à l'époque. Donc forcément, on est dans la mystification, une recherche. Pareil pour Corcal, hein, ils sont un peu jeunes, je pense, pour avoir connu ce temps-là.
Mais eux, ils n'ont fait que joindre tous les morceaux, c'est pas
ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont dessiné, écrit.
Non, ils n'ont pas dessiné.
T'as pas écouté leur interview, hein.
Mais non, c'est tout dedans, c'est une vraie histoire, c'est comme ça qu'ils ont trouvé le livre. C'est pas ça.
T'as pas écouté leur interview, toi. Elle était sympa pourtant cette interview.
Mais c'est pas ça. Ah, mais je suis passé carrément à côté alors. J'ai rien compris.
Ah merde.
Non, ça c'est le problème de la mystification, c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux.
Bon, déjà, le truc au premier degré qui nous présente ce livre comme le vrai machin chose. Bon, on se doute que non, mais ils en ont joué. Par exemple, il y a des pages qui ont été censées être des pages qui avaient été censurées.
Censurées à l'époque, qui ont été rajoutées, qui ont...
Ils les ont retrouvées, mais elles étaient abîmées. Donc on les revoit avec le côté abîmé qui a été reproduit. Ils se sont amusés à faire comme si cet objet-là était sorti à l'époque. Ce qui en soi, tel que c'est présenté, ça aurait pu être possible, presque. Mm. Et puis il y a toute l'histoire, parce qu'effectivement, toute l'histoire du champ de Moldoror qui aurait été perdu, c'est une vraie histoire, ça. Lotréamon a vraiment existé, c'était un poète maudit qui avait un autre nom, j'ai oublié son...
Isidore Ducasse.
Voilà, Isidore Ducasse, et qui n'a signé que ça. Et son bouquin, il n'a pas pu le publier, il y a toute une histoire sur les difficultés, mais c'est un bouquin qui est devenu comme une sorte de manifeste pour tous ceux qui allaient contre l'art pompier, derrière.
Mais Auguste Bretagne aussi a réellement existé. Il a rencontré Villiers de l'Isle-Adam, il a rencontré Mallarmé. C'est quand même pas des...
Et à la fin, il y a un petit livret qui nous explique que la réalité... Enfin, pardon, un petit livret encore plus dans la mystification, parce que ça a l'air d'être écrit par quelqu'un qui est un universitaire, qui nous explique très précisément les trucs, avec des documents d'époque, machin, chose. Sauf que c'est pipeau. Et c'est tellement bien écrit qu'on ne sait pas où est le vrai, où est le faux dedans. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très, très bien mené, parce qu'en tout cas, ça m'a donné envie de m'intéresser à cette époque. Le scénario, pour moi, d'ailleurs, c'est le mot, j'ai mis confondant.
Un faux ou un tox.
Pour moi, le scénar est confondant. Ils ont imbriqué la réalité et le mensonge, entre guillemets, d'une façon très, très agréable, à tel point que même le côté fantastique du bouquin est cohérent. Parce qu'il y a un côté fantastique, léger, mais...
C'est vrai que moi, j'avais une petite peur au départ de me dire, encore une fois, on nous sort le... C'est un vrai, c'est pas un vrai, en fait, ça a existé, ça a pas existé. Bon, l'idée de base, on va dire, est quand même pas originale, mais c'est fort bien mené.
Ah, moi, j'ai trouvé ça très, très, très bien écrit.
Et au niveau du graphisme, qu'est-ce qu'on a pensé?
Alors, j'ai mis vieilli comme mot.
Pourquoi?
Ce qui est un trait qui est volontairement, je trouve, vieilli. Ce côté de travail de remplir les noirs, mais tu sais, avec ces hachures, on a l'impression que c'est une impression, une impression à l'eau forte, un peu ce côté-là. Même si, Edith le disait dans son interview, elle a utilisé beaucoup de textures informatiques. C'était nouveau pour elle, en plus. Elle découvrait le truc, alors elle a expérimenté dans tous les sens. Mais il y a ce côté qui fait vraiment un peu eau forte, un travail sur la couleur. Dans les scènes aussi où ils ont pris du peyote, il y a un travail, moi, je trouve, au niveau de la narration, du graphisme, qui est super bien rendu, qui m'a bien plu, parce qu'on a vraiment ce détachement de la réalité. Et le truc qu'on a au niveau du fantastique, c'est qu'on ne sait pas si le fantastique a vraiment existé ou si c'est celui du fantastique parce qu'ils ont pris du peyote. Il laisse un petit doute. Moi, j'irais plutôt du côté c'est le peyote, mais c'est parce que j'ai un côté un petit peu scientifique. Mais voilà. Toi ?
Moi, c'était le mot lumière, en fait. Alors, pourquoi lumière, hein ? Je m'explique. Je trouve qu'il y a un travail sur tous les éclairages, que ce soit dans la chambre de Lautréamont, que ce soit dans les scènes en extérieur. Il y a toujours une... J'ai eu l'impression qu'il y avait une... Le soleil a une importance dans tous les dialogues, presque. Suivant à quel endroit ça se passe, et suivant l'éclairage sur les personnages, tu te retrouves sur des... comme si quelqu'un n'avait pas éteint son portable. Et comme si on voulait, tu vois, mettre une sorte de focus, quoi, sur un point important. Je sais pas si tu vois.
Je vois ce que tu veux dire. Il y a un travail, oui, sur l'éclairage.
Sur l'éclairage, que ce soit un éclairage donc par le soleil, que ce soit l'éclairage des réverbères, que ce soit l'éclairage des lampes, que ce soit l'éclairage à la fin, quand il retrouve le dessinateur dans le bar, là, avec les feuillages. Pour moi, c'est ça qui est resté important dans le bouquin, quoi, au niveau du dessin. Après, tous les passages qui sont, on va dire, des changements ou de l'impression que les personnages partent, fuient la réalité, sont super bien menés, quoi. C'est très joli, c'est très agréable à lire.
Moi, ça m'a donné envie d'en apprendre plus sur l'époque, en fait, que je connaissais peu. J'ai bien aimé l'idée d'avoir un Rimbaud jeune tout début, alors qu'il n'était pas encore, je pense, aussi connu. Enfin, en gros, il t'explique que c'est censé coller avec une de ses fugues quand il était môme.
Rimbaud, je crois qu'à 23 ans, il avait écrit tout ce qu'il a tout écrit. Quoi.
Oui, mais bon, là, il les a pas, les 23 ans. Hein.
À 18. Il y aura 5 ans encore.
Voilà, tranquille. Non, non, et puis ce côté du Paris d'après Commune, avec les ruines de certains quartiers. Un très, très beau bouquin, je pense que je n'aurais pas grand-chose à rajouter. Puis une belle édition en plus, mais ça c'est Futuro.
Et... Ouais, Futuro, c'est toujours des belles éditions.
Daredevil Reborn. Voilà, Andy Diggle écrit son dernier arc sur Daredevil. C'est Mark Waid qui prendra la suite plus tard. C'est aussi le dernier Daredevil qui sort en librairie chez Panini. Les prochaines aventures de Daredevil seront dans du magazine, dans un magazine qui s'appellera Marvel Knight ou un truc dans le genre, où on retrouvera Daredevil, genre peut-être des trucs genre Ghost Rider, Punisher, enfin tous ces personnages un peu urbains.
En fait, on va revenir un peu du Titan, quoi.
Ouais. Voilà. Faut savoir qu'en plus Daredevil va rentrer dans les Vengeurs, donc ils vont nous faire des crossovers dans tous les sens, ça va être le bordel. Moi qui aimais beaucoup le personnage parce qu'il était un petit peu détaché de la continuité Marvel, je pense que ça va commencer à être difficile. Pourtant, ce Daredevil, qui est d'un genre super-héroïque, un peu road movie, passe pas mal. En gros, ce qu'on a, c'est que Daredevil a fait beaucoup de mal dans Shadowlands, hein. Il s'est rendu compte qu'il était devenu méchant, 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 alors il s'est exilé.
C'est
parce
pas
que...
lui qui a fait du mal.
Ouais, mais il culpabilise. Tu sais, ce côté irlandais catholique qui culpabilise tout le temps.
Ce côté Calimero, en fait, tu veux dire.
Ouais, Daredevil, quoi. Matt Murdock, donc, s'est cassé.
Voilà. Il a tout plaqué.
Pendant ce temps-là, c'est la Panthère Noire qui a pris sa place pour protéger Hell's Kitchen. Je n'ai pas lu le Panthère Noire en question, mais ça me semble tellement bizarre que... Qu'est-ce qu'il fout, Hell's Kitchen ? Pourquoi il ne retourne pas dans le Wakanda, quoi ? Il a un royaume à protéger.
Parce qu'il y a Al-Qaïd.
Il a un royaume à protéger, il va se faire chier à Hell's Kitchen, un quartier de New York.
Parce qu'il y a Al-Qaïd. Il y a Al-Qaïd qui est revenu, donc forcément, il faut qu'il y ait un justicier.
Donc, et on va suivre Matt Murdock qui est en train de errer dans la ville après...
Dans le désert.
Dans le désert, parce que il se cherche, quoi. Il cherche sa nouvelle voie, il ne sait plus trop quoi faire, Matt Murdock. Mm. Et c'est un passage qui m'a beaucoup, beaucoup rappelé le passage de Anne Nushanti sur la série. C'était Romita Junior à l'époque au dessin. À l'époque où il avait eu son problème avec Typhoïde Marie. Où il était tombé amoureux de Marie et il avait Typhoïde Marie en face qui essayait de le tuer. Oui, il s'est déjà fait un passage dans le... Dans le désert, parce que...
Oui, il réfléchit au sens de la vie.
Il réfléchit. Voilà, c'était dans les versions intégrales chez Semic. Donc, vous pouvez gagner le tome 1 et le tome 8 en répondant à notre super concours. Et donc, voilà, c'est road movie, le mec qui se balade dans le truc, et il se passe un truc louche. Et lui, il a son côté super héroïque au fond de lui, qui lui fait « Ah, il faut que je fasse quelque chose !» Surtout qu'il rencontre un gamin aveugle. Et là, il se dit « C'est un peu moi quand j'étais petit. » Et donc, il va l'aider.
Je sens au doux son de ta voix que tu n'as pas trop apprécié ce Reborn.
Je suis médisant. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas apprécié, mais disons que, comme je disais, hein, quand tu as pris l'habitude du 5 étoiles, passer au 3, tu vois, c'est... c'est un petit peu difficile, quoi.
Ouais, mais comme moi, du coup, j'ai pas totalement apprécié Shadowlands.
Ah non, j'ai pas apprécié Shadowlands non plus. Shadowlands, c'était une étoile, voilà.
Ben voilà, donc,
mais bon, juste avant, on avait quand même du 5 étoiles.
Oui, mais avant, on est du 5 étoiles. Donc là, on était bien redescendu en gamme. On remonte un petit peu, ça.
On remonte un petit peu. Puis surtout, on a une approche de Daredevil qui revient un peu à des bases. Le côté, je suis un super-héros.
C'est ça.
Voilà. On n'est plus dans du polar. Parce que Daredevil, jusqu'ici, avant Shadowlands, c'était du polar. Shadowlands... qui, je trouve, a été un peu gâché, je pense, le côté « je suis Daredevil, je suis patron de la main » aurait pu être exploité vachement plus longtemps et vachement mieux.
Bah, surtout, je pense qu'ils auraient gagné en prenant un petit peu plus de temps pour faire monter la sauce, que ça ait une vraie ampleur. Parce que finalement, t'as l'impression qu'il y a eu une tempête, mais que dans Hell's Kitchen, quoi.
Ouais,
sur ça. 4 pâtés de maison, il y a eu une tornade, mais à côté, il ne s'est rien passé.
Ouais, c'est ça.
Et c'est un peu dommage.
Un peu dommage. Donc je trouve qu'il faudrait... en tout cas, là, c'est vraiment une histoire indépendante qui va juste faire que Matt Murdock se dit hey, « Je suis Daredevil et je reprends le taf. Enfin, »
Il reprend le combat.
Voilà, c'est une mini-série qui nous permet de faire un déclencheur. Ça apporte pas grand-chose à la série, si ce n'est une introduction au personnage. C'est-à-dire que très rapidement, on peut savoir... qu'il a eu un traumatisme et voilà ce qui va se passer pour la suite.
Ouais. Au niveau du graphisme, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ?
J'ai mis brut dans le sens où on a un dessin qui est vraiment brut, tu vois, ça tape, ça tabasse, quoi, comme dessin. Tu sens le côté, je veux dire, quand il fout un pain dans la gueule d'un mec, tu sens le côté, bah, ça c'est du pain dans la gueule, quoi, c'est pas du pain de mémé, quoi. Voilà, donc j'ai... Quoi ?
Non, rien.
Je la fais la caïs, tu vois. Moi, je suis caïs et je fais boule critique, je te parlais de BD, tu vois. Non, mais Daredevil, c'est pas une demi-tarlouse, tu vois.
Voilà. Tu veux un moine trappiste dans l'histoire aussi ?
Ouais, ouais. Nous sommes dans le privé de joke, passons à autre chose. Non, moi, j'ai trouvé ça super, très efficace, bien.
Moi, j'ai dit que c'était un peu du c'était péchu, c'était old school, quoi. Moi, j'ai retrouvé un vieux... J'ai l'impression d'avoir des vieux dessins, mais avec des couleurs actuelles, quoi.
Moi, j'ai mis old school pour le scénario, c'est rigolo.
Ah bah écoute, tu vois. Non, moi j'ai mis retour aux sources, alors quelque part, on est old school. Par contre, un truc qui m'a même choqué, c'est que j'ai l'impression que le Reborn a fait aussi rajeunir Daredevil.
Ah oui, non, mais à chaque fois qu'il a un traumatisme, Matt Murdock, il rajeunit.
Ah, parce que là, il fait... Là, honnêtement, tu lui dis... Ouais, il a 24 ans.
Non, j'aurais dit 30, la trentaine, quoi. Une petite trentaine.
Non, tu rigoles ou quoi, il a 30 ans là-dedans.
Avec sa barbe moche.
Justement, c'est le jeune qui se fait pousser la barbe pendant 2 mois pour avoir une sorte de petit duvet, quoi.
Le rouquin, ouais, qui s'est poussé la barbe. Voilà. Parce que les rouquins, en général,
c'est un peu léger, quoi. Donc c'est ça, voilà. C'est... Il a 25
ans,
là.
Le truc qui était nul, c'est le méchant avec des super pouvoirs. Ça n'avait aucun intérêt.
Ouais, mais il fallait qu'il trouve un moyen de dire que ça y est.
Que ça y est, on revenait aux super-héros avec des méchants avec des pouvoirs.
Daredevil is back.
Avec ouais, des méchants avec des super-pouvoirs qui ont un intérêt dans l'histoire et pas seulement le mec qui va comploter, manipuler, magouiller. Voilà. J'ai peur que de regretter l'époque polar.
Ah, je voulais dire, j'ai peur de regretter l'époque Shadowland.
Non, l'époque polar.
Pas quand même. Hein.
Mais est-ce que j'ai cru en... Enfin, ce que j'ai entendu, le côté, enfin, le passage de Mark Waid est de très bonne qualité. Ça reste du super-héros classique, mais c'est de bonne qualité. Donc, on vous parlera, je pense, des Marvel Knights quand ils sortiront, parce que je vais continuer à suivre Daredevil. C'est mon héros préféré.
Avec plein d'autres gens dans le même magazine.
Ouais. Puis en plus de la qualité, Daredevil a toujours été accompagné de séries super bien. Moon Knight. Non, il y en a des biens, des Moon Knight.
Lock and Key, tome 3, La Couronne des Ombres.
Ouais.
Avec donc toujours Joe Hill et Gabriel Rodriguez. Ils ont gagné un Will Eisner.
Ils ont gagné un Will Eisner Award, oui.
Ouais, pour le meilleur scénario. Et très honnêtement, ça le vaut. Alors, qu'est-ce que nous raconte...
On y reviendra.
On y reviendra juste après. Qu'est-ce que nous raconte donc Lock and Key ? Eh bien, c'est l'histoire de la famille Locke, qui vit dans un manoir de la ville de...
Lovecraft.
Et dans ce manoir, il y a plein de serrures et il y a des clés qui
planquées partout.
Partout et qui ouvrent les dites serrures. Et il y a un personnage, Dodge, qui poursuit la quête des clés. Alors, on sait que ce personnage est a priori pas très
gentil
et que il œuvre pas pour le bien du monde.
Il veut les clés pour apparemment avoir une forme d'immortalité, un truc dans le genre.
Un truc dans le genre, ouais. Un truc de pouvoir, quoi.
Voilà. Et apparemment, c'était un ancien compagnon des parents.
Locke.
Des parents Locke.
Mais visiblement, il n'aurait pas le même corps.
Oui, ça a l'air assez tordu. En tout cas... Bon, clairement, là, dans cette histoire-là... Que se passe-t-il dans celui-là ?
Que se passe-t-il ? Donc, on est toujours dans la suite de notre tome 2. Hein. Il n'y a pas de... Dans le premier tome, on avait donc le passage, les Locke, ce qui leur est arrivé, le drame qui s'est joué chez eux, où d'anciens élèves sont venus prendre en otage, tuer, ainsi de suite. Les trois enfants ont survécu, la mère aussi, mais... Ça explique aussi ce qui se passe maintenant.
Oui.
La mère a survécu aussi, mais un peu quand même en vrac, hein.
Voilà, avec beaucoup de sous-entendus difficiles.
Ouais, très difficiles, les sous-entendus.
Ils sont levés, là, les sous-entendus.
Et donc, les trois gamins essayent, tant bien que mal, eux, de se reconstruire. Et chacun, donc, a sa petite vie. Et ils commencent à utiliser les clés. Alors, ils ont trouvé, dans le tome 2, une clé qui permettait d'enlever certains souvenirs. Certaines choses de son cerveau.
Son cerveau. Et la fille Locke s'est fait enlever sa peur.
Elle a enlevé la peur. Donc, du coup, elle n'a plus peur de rien.
Ouais.
Mais par contre, pour le petit, ils n'ont pas enlevé la peur.
Ils ont enlevé les souvenirs qui faisaient peur.
Les souvenirs qui faisaient peur. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit que...
fallait le préserver de toutes les horreurs.
Donc, parce qu'en fait, si on lui enlève la peur, il va mourir très rapidement.
Oui.
Donc, il faut qu'il continue à avoir peur. Comme ça, il aura l'idée intelligente de tout héros. Courage, fuyons.
C'est la spécialité de Doctor Who.
Oui, mais il a raison, c'est comme ça que tu survis. Donc, ben, nous continuons ici donc notre aventure avec la famille Locke et Dodge, donc qui cherche une clé.
La clé des ombres.
La clé des ombres, exactement.
C'est la clé dont il a absolument besoin.
Et il va même du coup la chercher sur un fantôme.
Oui.
Il va demander à un fantôme du manoir
Locke pour lui.
De la trouver pour lui. Sauf que le fantôme en question, ben, lui, voudrait bien récupérer un corps parce que visiblement Dodge lui a piqué son corps il y a de ça quelques années.
Non, c'est le mec qu'ils ont buté, qui a tué les parents, le fantôme.
Il veut récupérer son corps. Mais c'est ce qu'il veut au final.
Non, il veut récupérer un corps, parce qu'il a plus de corps, il est censé être mort.
Oui, mais c'est Dodge qui lui a en partie. Time Warp.
Et alors, donc, nous disions.
Eh bien, donc, le gars qui avait réellement tué.
Les parents.
Qui avait voulu tuer les deux parents. Essaye, donc lui connaît la maison par cœur et donc sait sans doute où est la clé des ombres.
Oui.
Ce que Dodge cherche absolument.
Enfin, c'est surtout qu'il a les moyens en tant que fantôme de fouiller pas mal et qu'il a le pouvoir de la trouver. En le voulant, il peut la trouver. Et en parallèle, on a la fille qui, elle, essaye de comprendre l'histoire, l'origine de ses parents parce qu'elle apprend que.
Ses parents ont vécu là aussi avant, toute leur jeunesse et qu'il y a forcément plein de traces. Plein de traces
que
de leur passage.
Dans un vieux truc qui a été à l'abandon, un vieux tunnel à l'abandon, il y aurait des marques là-dessus et elle y va parce qu'elle n'a peur de rien. Et quand on a peur de rien et qu'il y a un truc dangereux, on s'en fout.
Et il nous arrive toujours des bricoles.
Et donc on suit toutes ces intrigues en parallèle de façon super bien menée, super stressante, super intelligente.
Moi j'ai trouvé quand même que le scénario était un petit peu déjanté là maintenant. Ça commence à partir un petit peu dans tous les sens. On se retrouve avec tellement de clés, tellement de pouvoirs possibles que tu te poses presque la question de savoir comment est-ce qu'ils font pour s'en sortir.
Moi je le trouve intriguant. T'as envie de savoir comment. Enfin, t'as envie de connaître le passé en fait. J'aimerais bien avoir un épisode flashback. Tout connement. Le truc, c'est que je pense qu'on n'en sait pas assez encore.
C'est ça, faut que ça se monte, mais.
Mais l'intrigue avance tout en douceur, lentement, on en apprend à chaque fois un peu plus. Là aussi, un des points très importants de cet épisode-là, c'est la déchéance de la mère.
Ouais.
Qui sombre dans l'alcoolisme de plus en plus gravement, et qui a en plus une fille qui n'a pas peur de le lui dire.
Ouais, faut avouer que la mère, quand même, elle va loin, quoi.
Ouais, enfin, la fille. Va loin aussi de ce côté. Et toujours le grand frère qui, lui, est le mec top, quoi. Je veux dire, un grand frère comme ça, il fait tout ce qu'il peut, quoi. Il est...
Ouais, mais enfin, Tyler, il est un peu zarbre, quand même.
Ouais, enfin, ils sont tous zarbres dans cette famille.
Ouais, c'est vrai.
Et il est ado, hein, il change. C'est normal d'être un peu zarbre quand on est ado. Il est ado, il change, il a assisté au massacre de son père. Non, c'est rigolo, tout ça.
Okay.
Une bonne série d'horreurs sur le dessin.
Efficace.
Expressif.
Alors, efficace, pourquoi ? Parce que moi, j'ai trouvé que... non, je sais pas, tu me regardes bizarrement. Que sur chaque personnage, tu as une... J'ai l'impression que chaque personnage donne, on va dire, en fonction du nombre de traits que tu as, tu as presque l'âge du personnage.
Oui.
Le gamin, je ne rappelle plus son prénom, hein, ça ne me revient pas.
Bud.
Bud, Kinsey, Tyler et la mère. Et donc sur Bud, t'as très peu de traits, mais quand on arrive à la mère, on a beaucoup de traits.
Surtout que depuis le tome 1, elle a gagné des traits. Hein,
voilà. Et pareil, donc sur Kinsey et sur Tyler, au fur et à mesure, on a de plus en plus de traits. C'est pour ça que je trouve que c'est super efficace parce que, comme si en vieillissant, il nous fallait plus de traits pour nous définir. Quoi.
Ouais, je trouve ça très expressif parce que. Il arrive vraiment en un dessin, on a les expressions des personnages sont très justes en fait. On sait ce qu'ils veulent dire, on est vraiment dans quelque chose de propre. On arrive à avoir de la subtilité dans les expressions, ce qui n'est pas forcément évident en dessin et qui est efficace pour une histoire d'horreur. Quoi. On s'intéresse vraiment à ces personnages, on s'attache à eux, on a peur pour eux, on se demande ce qui va leur arriver, on a envie de savoir comme eux, on a vraiment la curiosité. Ils agissent parfois inconsciemment, mais quelque part, on se demande... On aurait peut-être agi pareil sur certains points. La curiosité, je veux dire. Tu trouves une clé bizarre avec une serrure bizarre, qu'est-ce que tu fais ?
Je l'essaye.
Et oui. Comment tu résistes à ça, quoi ? J'ai passé un très bon moment. Donc, c'est chez Milady ?
Toujours, chez Milady Graphique. Toujours des belles éditions chez Milady, hein, parce qu'on a un petit making-of aussi pareil à la fin avec avec les couvertures et un Bud et Peter Pan derrière qui est,
oui, parce qu'il
qui est
y a
absolument splendide.
Il y a les ombres qui les attaquent, attaquent parce qu'ils trouvent la clé des ombres, mais on n'ira pas plus loin. Il y a une très très belle scène d'action avec les ombres et puis au niveau du dessin qui est superbe. Les fantômes aussi sont très bien dessinés, j'ai beaucoup aimé. Il y a une petite histoire des clés vue du point de vue d'un des anciens propriétaires des clés. Enfin, c'est très très bien.
Blotch! Page!
Bon, on va attaquer maintenant.
Le lourd, l'énorme.
Alors, on va pas vous faire la petite mise en scène rigolote comme on fait d'habitude parce que. Bon, on est mauvais en général, mais là, en plus, on va vous faire passer la petite interview de Stan Sakai que j'ai faite avec Jeannot de Comic City au Festival d'Angoulême. Il y en a pour 15-20 minutes, donc on s'est dit qu'on allait plutôt laisser la parole à Stan plutôt que la parole à nos conneries.
Ouais.
Ouais, vous allez y gagner, je pense.
Mais pourtant, il y a nos voix.
C'est parti.
J'ai doublé Stan Sakai.
Ouais.
On attend 20 minutes, là.
Donc, je suis avec Stan Sakai et Jean-Loup de Comic City. Hi, Stan.
Hello.
Nous allons tenter de faire notre meilleur anglais pour faire une interview trop bien. Stan, you work on Usagi Yojimbo since.
Vous travaillez sur Usagi Yojimbo depuis 1984. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de Usagi Yojimbo?
The story of Usagi Yojimbo.
Well, Usagi Yojimbo is a story.
Usagi Yojimbo raconte l'histoire d'un samouraï dans le Japon du 17e siècle, mais tous les personnages en fait sont des animaux.
Usagi Yojimbo himself, Miyamoto Usagi.
D'ailleurs, Usagi est un lapin, et donc comme je vous l'ai déjà dit, son histoire se passe au Japon. J'essaie d'être le plus réaliste possible quand j'évoque la culture, les traditions et l'histoire du Japon. Mais comme j'ai déjà dit, voilà, tous les personnages sont des animaux.
Was it obvious for you, c'était une évidence pour vous, étant donné vos origines, de raconter une histoire qui se passe au Japon?
To choose Japanese stories.
Well, I was born in Japan, but I grew up in Hawaii.
Je suis né au Japon, mais j'ai grandi à Hawaï. Donc, Hawaï a toujours compté une importante communauté d'origine japonaise. Donc, j'ai grandi à la fois dans les mangas et dans les comics.
American comics. And when I wanted to do a comic book series of my own.
Mais quand j'ai voulu me lancer dans la BD, j'ai choisi de parler d'un vrai samouraï du 7e siècle, qui est Miyamoto Musashi. Donc j'ai fait des esquisses dans mon carnet de croquis, et j'ai présenté un lapin avec les oreilles nouées en chignon comme les samouraïs. On appelle ça le Chan Magi. J'ai adoré son design un petit peu épuré, alors personne n'avait jamais fait auparavant, mais c'était, je trouvais ça simple. Donc j'ai fait de mon personnage un lapin.
Où puisez-vous votre inspiration? De vos origines ou des films japonais?
Je puise à la fois dans les films, dans les mangas et aussi dans les contes traditionnels du Japon. J'adore les vieux films de samouraï et de chambara. Et Kurosawa est mon réalisateur préféré, ainsi que Inakagi et plein d'autres encore.
Vous faites référence à de nombreuses histoires de samouraïs dans votre travail. Est-ce que vous faites beaucoup de recherches à ce propos?
Oui, je fais beaucoup de recherches, mais pas seulement en fait sur les histoires, mais aussi sur la culture japonaise. Je viens de terminer une histoire sur la sauce soja qui se déroule dans le Japon médiéval. J'ai des histoires donc sur la fabrication des cerfs-volants, sur la cérémonie du thé, sur les daiko drums, et tant d'autres en fait. J'intègre ces détails un petit peu culturels donc aux histoires d'Usagi. Donc je raconte autant des histoires d'aventure, d'amour, un petit peu dans tous les genres, mais des histoires comiques aussi. Hein. Mais c'est toujours tiré de la culture japonaise.
Vous avez choisi des animaux comme personnages à cause du design d'Usagi. Comment avez-vous choisi quels animaux seraient les autres personnages?
Because I think they look good. it's not that I choose characters.
Parce qu'ils sont beaux. Il m'arrive de choisir un animal en particulier parce qu'il représente une vertu. Par exemple, le professeur d'Usagi, Katsuichi, est un lion car c'est un animal fier, fort. Son ami Genosuke est un rhinocéros car j'ai bien aimé l'idée que Usagi, le lapin, soit à côté d'un animal imposant. Cependant, en fait, Usagi reste quand même le héros de l'histoire, et on n'associe pas habituellement le lapin à un personnage fort qui sait manier l'épée, mais ça fonctionne très bien. Mais j'ai dessiné la plupart de mes personnages pour qu'ils soient jolis.
Ok. Pourquoi les Tokagi? Moi, je les adore.
I love them.
Tokage means lizard in Japanese.
Tokagi signifie lézard en japonais. Il y a des lézards dans tous les paysages d'Usagi, principalement parce que je trouve qu'ils sont jolis.
The main reason is because I think they look good. I love to draw dinosaurs.
J'aime dessiner des dinosaures et les lézards ressemblent à des dinosaures. Donc, comme tous les personnages sont des animaux dans le monde d'Usagi, j'avais besoin de certains pour jouer le rôle d'animaux de compagnie, d'animaux sauvages, sarognards. Alors que les chiens, les rats, les chats de notre monde seraient des personnages dans le monde d'Usagi, hein, j'avais besoin de personnages qui joueraient le rôle des chats et des chiens. Tout ce que nous considérons en fait comme des animaux. Alors, c'est pour cela que j'ai créé ces lézards.
Cats, dogs, things that we consider animals. And so those lizards come in.
Enfin, on me demande toujours donc s'il y a des Tokagi au Japon. Alors je réponds toujours que oui, ils courent à travers Tokyo, ils se font renverser par les voitures, c'est une vraie vermine. Vous utilisez souvent vos personnages pour apporter une note comique. Est-ce que parce que leur design est prêt à rire?
Because you think the design goes good with the comics?
Gensuke est gros, mais c'est pas vraiment un personnage drôle. Mais il se retrouve souvent en situation comique. Donc, Gen est un chasseur de primes qui vit pour l'argent, mais il a un très grand cœur.
Vous avez fait un crossover avec les Tortues Ninja. Est-ce que vous comptez en faire avec d'autres personnages?
Plan crossover with other comics characters?
Non.
Usagi et Tortue Ninja ont débuté en même temps en 1984. Alors à cette époque, il y avait très peu de livres comme les nôtres, donc nous sommes écrits, nous sommes devenus amis, et Usagi est apparu dans les livres, dans la série télé, même parmi les figurines des Tortue Ninja. Cependant, aujourd'hui, Kevin Eastman et Peter Laird, les créateurs des Tortues Ninja, ont vendu en fait la franchise et ils n'ont rien à voir du tout avec les Tortues Ninja. Donc, je ne pense pas que Usagi apparaîtra à nouveau avec les Tortues Ninja. Donc, on avait fait ça par amitié, mais désormais, une grosse compagnie détient les droits et on n'a plus les mêmes relations.
The first time I saw,
j'ai vu Usagi pour la première fois dans un dessin animé des Tortues Ninja.
La collaboration entre Usagi et la série télé des Tortues Ninja a débuté à l'occasion donc du Comic Con à San Diego. Et Peter Laird et moi étions en train de discuter et il m'a demandé si je voulais faire une figurine d'Usagi. Et j'ai répondu oui et c'est comme ça que ça a commencé.
À propos de figurines, j'en ai vu de nouvelles sur votre site internet. Êtes-vous consulté sur le design de ces figurines?
Beaucoup de figurines en fait ont été produites ces dernières années. Il y en a eu deux ou trois qui étaient en lien avec les Tortues Ninja et quelques-unes d'Usagi seules. Mais l'idée de faire une peluche en fait à l'effigie d'Usagi remonte à quelques années en arrière, à l'occasion de son 20e anniversaire. Et il y a aussi de nouvelles figurines qui sont vraiment de très très belles sculptures avec plein de détails.
Est-ce que Usagi est condamné à être un vagabond?
Doit-il rester un vagabond? Pour le moment, oui. Les aventures d'Usagi sont les meilleures quand il rencontre différents genres de personnes. S'il devait servir un seigneur, il serait principalement en relation avec celui-ci, avec des samouraïs. Mais comme Usagi est un vagabond, il peut rencontrer des samouraïs, mais aussi des pêcheurs, des paysans, des fermiers, des marchands et bien d'autres. Je veux raconter des histoires sur les relations entre différentes classes de la société japonaise à l'époque. Par exemple, là, je viens de terminer une histoire sur la fabrication de la sauce au soja. Et si Usagi était attaché à un seigneur, il ne s'intéresserait absolument pas à la façon de faire la sauce au soja.
Après presque 30 ans, vous ne vous lassez pas d'Usagi. Avez-vous d'autres projets?
Je me lasse pas d'Usagi. J'aime ce que je fais. C'est un métier fabuleux. J'écris et j'illustre mes propres histoires. Je suis mon propre patron, donc mon éditeur ne voit un album que quand il est complètement terminé, donc je lui envoie que la version finale. Voilà, j'adore ce que je fais. Là, je vais faire un petit break pendant 8 mois donc sur Usagi, car on m'a demandé de faire l'adaptation de 47 Ronin. Il y a un film qui va sortir et ils veulent que mon adaptation coïncide justement avec ce nouveau film.
Allez-vous utiliser des personnages anthropomorphiques pour ce nouvel album?
Non, il n'y aura que des humains. Et donc, je dois compter les doigts des personnages, car Usagi n'a que 4 doigts. Et je dois bien faire attention à en dessiner 5 par main pour les humains. Mais je suis un petit peu inquiet pour cet album, car c'est une vieille histoire qui est très connue au Japon. Elle débute par le suicide forcé d'un seigneur. Et de nombreuses années plus tard, son serviteur cherche à se venger de ceux qui ont forcé son maître à se suicider. Donc c'est une histoire qui est très célèbre de la mythologie japonaise. Et je suis très très fier de pouvoir travailler dessus.
Est-ce que l'édition américaine de Usagi a le même format que la française? Et que pensez-vous du format de l'édition française?
L'édition américaine est un petit peu plus grande que les livres français. Cependant, ils restent quand même un petit peu plus petits que la plupart des grands romans américains. Donc les albums français ont le format d'un manga. Au départ, j'avais un petit peu peur justement qu'ils soient trop réduits, mais en fait, non, ils sont bien. On voit très bien les dessins et les textes restent lisibles. J'aime bien le format français et en plus, le prix est assez raisonnable.
Ok, une question? Vous avez dit précédemment que vous aimiez les films de samouraï et de chambara. Dans ce genre de films, il y a beaucoup de combats, comme dans les films d'Akira Kurosawa, beaucoup d'histoires de films de fantômes ou de yokai, dans ceux de Kenji Mizoguchi. Dans Usagi Yojimbo, on rencontre ces deux types d'histoires. Quel est votre genre préféré?
What are your favorite stories? Because in the Usagi Yojimbo, we have both stories. In alternance, so what are your favorite stories?
Well, because I work on Usagi,
dans Usagi, je peux raconter n'importe quel genre d'histoire. En fait, la plupart sont des pures histoires d'aventure. Hein. Mais cependant, il y a aussi une histoire sur les fantômes et les gobelins, les gobelins japonais. Je peux écrire des histoires sur un petit peu tous les thèmes, l'amour ou ce qui me passe par la tête. Je m'interdis aucun genre. Mais mon genre préféré sont les films de samouraï, avec vraiment de l'action pure. J'ai grandi avec ça, et en bas de la rue où j'ai grandi à Hawaï, il y avait un vieux cinéma qui programmer les films de Kurosawa et de Toshiro Mifune. Ce sont des films fabuleux avec lesquels j'ai grandi.
On compare souvent les films de samouraï avec les westerns américains, car les histoires se ressemblent. Les films de Kurosawa ont été adoptés par Sergio Leone, par Preston Sturges. George Lucas lui-même a été influencé par le film de Kurosawa, La forteresse cachée, pour Star Wars. On retrouve un peu le même genre de choses. Chez DC Comics, il y a un personnage qui s'appelle Jonah Hex. Vous le connaissez?
Kind of stories, and in the comics, DC Comics, there is a character which is Jonah Hex. Do you know him?
Je connais l'ancien Jonah Hex, mais j'en ai pas lu depuis des années. C'est un cowboy.
C'est à peu près la même histoire qu'Usagi Yojimbo. Il est seul, c'est un mercenaire, bien qu'il soit plus violent. Parfois il combat et parfois il voit des créatures fantastiques. Est-ce que Jonah Hex pourrait être une adaptation western d'Usagi Yojimbo?
Sometimes he fight and sometimes he see fantastic creatures. So can he be the western adaptation of Usagi Yojimbo?
Ils ont beaucoup de choses en commun. Ils sont tous les deux solitaires. Ils ont leur propre code d'honneur, mais cependant, Jonas Hex est moins droit. Il peut s'arranger avec les limites entre le bien et le mal. Uzagi obéit à un code moral très fort, quoi, le Bushido qui va définir la manière de faire les choses. Parfois, il va enfreindre le code des samouraïs, mais c'est toujours pour une bonne raison.
Pour finir, vous avez créé Space Uzagi comme Will Eisner l'avait fait auparavant avec Space Spirit. Pourquoi avoir fait cela? Pour changer? Pour raconter d'autres histoires?
Spirit. So why did you do this? To change? To tell other stories?
Well, Space Uzagi.
Space Uzagi est un descendant de Uzagi Yojimbo. Je l'ai fait car je voulais dessiner des dinosaures, j'aime ça, de vrais dinosaures. Alors j'avais deux façons de le faire. Je pouvais faire un Uzagi préhistorique dont les aventures auraient lieu il y a très très longtemps, mais ça me semblait pas très très intéressant. Alors je créais un Space Uzagi qui irait sur la planète des dinosaures. C'est ce qui se passe dans le premier tome, mais je suis surpris car Space Uzagi n'a pas encore été traduit en français.
Space Uzagi has not been translated into French yet. Yes.
It has been
ça a été traduit il y a très longtemps.
A very long time ago.
Ah, ça a été traduit, je ne savais pas.
C'était une couverture de Michael Golden, je crois. I think.
And actually there were actually a Space Uzagi toy.
Il y a une figurine de Space Uzagi avec les Tortues Ninja dans le nouveau dessin animé, il était prévu de faire apparaître Space Uzagi, de le faire rencontrer donc les Tortues Ninja, mais ça ne s'est pas fait à cause de la cession des droits, je trouve. Mais c'était vraiment super. Le personnage avait un magnifique design.
Pour mémoire, John Hex a aussi eu le même genre d'aventure dans l'espace. C'est encore une autre similarité avec Uzagi.
It's another point in comparison.
Dans notre podcast, on invite des auteurs à venir parler de leur BD préférée. Quelle est la dernière BD que vous ayez préférée?
What is your last favorite comics?
Oh, my favorite comics. Well, I grew up on the comic books of the 60s, 1960s.
J'ai grandi avec les BD des années 60 quand Stan Lee et Jack Kirby étaient à leur apogée, donc ça reste ma période préférée, mais grâce à mon métier, j'ai pu rencontrer mes héros, j'ai connu Jack Kirby, j'ai travaillé avec Stan Lee. C'est fantastique, j'ai connu Will Eisner. C'est extraordinaire. Voilà, j'aime cette période de l'histoire de Marvel, j'aime aussi des livres comme les livres de Karl Barks, de Donald Duck, Oncle Picsou. En ce moment, j'apprécie beaucoup la série de Jeff Smith, Bones, et Russell. David Peterson a une très bonne série qui est intitulée La Légende de la Garde. Il y a de très bons livres aujourd'hui. Quand j'étais petit, il y avait surtout des albums de super-héros, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de mélanges de genres, il y a plein d'histoires différentes à raconter. C'est une époque formidable pour la BD.
It's a wonderful time in comic books.
Vous êtes Yojimbo, le tome 22 vient de sortir. On va revenir un peu plus longuement sur cette magnifique série de Stan Sakai dont vous venez d'entendre l'interview. Pour parler plus précisément un peu de comment cette série a évolué et comment est-ce qu'elle a avancé. Donc, Uzagi Yojimbo, c'est maintenant une vieille série quand même, 84, ça ne nous rajeunit pas. Une série d'un auteur qui est arrivé tardivement en France, il y a eu plusieurs tentatives chez plusieurs éditeurs, puis Paquet avait essayé en grand format et est revenu à un petit format façon manga, ce qui leur a permis de proposer vraiment de la BD pas chère au départ. Les premiers tomes, il est proposé à moins de 5 euros.
Au départ.
Au départ, ça a un peu augmenté depuis, mais ça reste honnête. Le numéro 22 vient de sortir, et que nous raconte Uzagi Yojimbo? Uzagi Yojimbo, c'est l'histoire donc d'un samouraï lapin. Tous les personnages sont des animaux, et Uzagi Yojimbo, c'est un ronin, en fait. Son maître est décédé dans une bataille, et c'est devenu un samouraï sans maître. Et donc il erre à travers le Japon médiéval, ou en tout cas c'est le Japon.
C'est le Japon médiéval, non?
Le Japon médiéval, à la recherche de l'aventure, entre guillemets, enfin, pour donner des coups de main à gauche, à droite. C'est un vagabond, un vrai vagabond, en son terme. Sauf qu'il a gardé de très très forts liens avec différents personnages.
Dans Tomoe.
membre de son clan, et d'un clan dans lequel il est très proche, non Tomoe. Parce qu'en gros, on est en pleine période où les clans se tapaient un peu sur la gueule pour des luttes d'influence. Ça restait des luttes de frontières un petit peu light, hein, des petites échauffourées, rien de bien dangereux. Mais au niveau du complot pour s'approprier des terres, c'était un petit peu costaud. Et là, bah, on a un méchant qui essaye de choper les terres de tout le monde, dont celle du comment
Seigneur Noriyuki.
Voilà, du Seigneur Noriyuki, duquel Usagi est très proche parce qu'il a sauvé le Seigneur à plusieurs reprises, même quand il était tout enfant, il y a quelques années maintenant. Le Seigneur Noriyuki a quelqu'un qui travaille pour lui, c'est une jeune femme qui s'appelle Tomoe, qui est une samouraï, quelque chose de très très rare, car c'est une femme qui a le droit de porter les sabres, c'est-à-dire que tous les sabres du samouraï, parce que n'importe qui ne peut pas porter les sabres, les paysans n'ont pas le droit de porter les sabres, et s'ils les touchent même, on peut les tuer. D'un autre côté, c'est que des paysans, c'est pas grave. Et donc on va suivre toutes ces aventures. Ça s'enchaîne des histoires courtes, c'est une des particularités de Usagi, c'est qu'il y a des histoires courtes qui vont mettre en valeur un côté de la culture japonaise, ou de l'histoire japonaise, et des histoires avec un fil conducteur qui, par exemple, on a eu l'histoire de la coupeuse d'herbe, qui était une épée légendaire, qui avait disparu. Et donc là, on rentre dans un grand conflit avec de la politique, de la guerre, des combats. Et de temps en temps, les personnages reviennent pour des histoires particulières, dont certains personnages, par exemple, qui ont attrait aux contes fantastiques. Et donc on a un mélange d'histoires d'action réalistes et de contes fantastiques dans Usagi Yojimbo. C'est pour ça que c'est très très complet, et je trouve qu'il y a une très très belle image du Japon. Et pourtant, Stan Sakai n'a que des origines japonaises. Il a grandi à Hawaï, il a grandi aux États-Unis, il a de grandes influences japonaises forcément de par sa famille, mais il a aussi énormément d'influences américaines au niveau de la narration. Par exemple, le travail des animaux anthropomorphes, c'est une tradition purement américaine, je veux dire, Karl Barks, Disney, etc. Et il a réussi à se l'approprier dans la bande dessinée asiatique. Moi, je suis fan donc de ce travail-là, parce que à chaque fois, je découvre des éléments de la culture japonaise que je trouve superbes, qui ne sont pas traités aussi bien, je trouve, dans les mangas, pour la simple et bonne raison que dans les mangas... ils n'ont pas à le traiter, c'est normal.
C'est normal, oui.
Voilà, ils n'ont pas à en parler. La cérémonie du thé, ils connaissent, il n'y a pas besoin qu'on leur explique, quoi. Et donc, justement, dans ce tome 22, on a un épisode sur une cérémonie du thé où il ne se passe rien.
Il n'y a quasiment pas de texte. C'est que du dessin, c'est que sur l'ambiance.
Et il nous montre la cérémonie en détail, avec les trucs,
avec
les petites explications en marche, pour dire on fait tourner la tasse trois fois pour la présenter de tel côté sur la personne, etc. C'est à la fois instructif et en plus c'est un épisode qui est très très intéressant sur la relation entre les deux personnages que sont Tomoe et Usagi. Parce qu'entre Tomoe et Usagi, cette femme samouraï est un petit quelque chose, quoi. Il y a une galerie de personnages en plus, voilà, moi que je trouve génial. On va essayer de revenir un peu, alors je ne vais pas me souvenir à chaque fois de tous leurs noms, sur les personnages qui nous ont marqués. Alors, un des plus marquants c'est Genosuke, le chasseur de primes.
Un rhinocéros.
Voilà, qui est un gros bourrin en fait, qui agit genre je suis un bourrin, je travaille que pour l'argent, mais au fond j'ai un cœur d'or. On a comment elle s'appelle, la jeune l'artiste de rue, qui en fait est une voleuse et qui a récupéré sous sa garde dans un des épisodes une jeune fille qu'elle à qui elle apprend les ficelles du métier. Nous avons un personnage qui était très très effrayant, celui qui était possédé par un esprit démoniaque, qui au fur et à mesure des tomes, on l'a revu à plusieurs reprises, c'est une sorte d'esprit de la vengeance en fait. Ça fait penser un peu à Ghost Rider pour le coup.
Kitsune au fait.
Kitsune là, bah oui, le renard. Kitsune c'est le renard en japonais. Et donc l'esprit de la vengeance qui est arrivé il y a peu dans le corps d'un jeune enfant. Qui est bien flippant pour le coup.
Chucky.
Ouais, c'est un petit côté Chucky. nous avons donc Tomoe, hein, dont on a parlé plusieurs reprises, le maître de Usagi, le lion qui déchire. Dont tu cherches le nom en plissant des yeux et c'est dur.
Ketsushi.
Ouais, je sais plus. Quel est ton personnage secondaire à Uzagi préféré? Il y a le moine aussi, qui est un personnage super sympa, l'ancien samouraï. Alors, ton personnage secondaire favori dans Uzagi?
Ah, tu me prends un peu de cours. Je n'en aurais pas réellement qui vient comme ça, qui me saute. Bon, je spoil un peu.
Ça dépend à quel niveau.
Le fils d'Uzagi, quoi.
Oui, on peut spoiler jusqu'au tome 22. De toute façon, on le sait de suite.
Oui, on le sait, voilà.
S'il n'y a pas vraiment de spoiler.
Finalement, c'est un peu le fils d'Uzagi, moi, cette relation qui est un peu entre les deux, où le fils ne sait pas que c'est son père. Hein, mais...
Et Uzagi a des doutes, mais ne sait pas non plus.
Mais on peut supposer que.
Voilà. Disons que c'est le seul autre lapin de la série.
C'est vrai.
Quelque part.
C'est pas faux.
Donc, il y a toute cette histoire avec le petit qui sont super sympas. C'est vrai que Tomoe me plaît bien aussi en tant que personnage. En plus, elle est très développée dans le tome 22. C'est un des personnages.
Ça fait déjà plusieurs tomes qu'elle est très très présente.
Mais le tome 22, c'est son tome à elle, quoi. Uzagi est prêt. Il y a souvent des histoires où Uzagi est quasiment un personnage secondaire. Mmh. Il est juste là, en tant que témoin de la scène.
Le tome 22. Tome 21. Ouais. Tom précédent, il est vraiment là pour faire de la figuration. Quoi.
Et là, on va suivre en gros surtout les relations. On apprend le passé de Tomoe, comment elle a grandi avec une sœur, on va dire. Enfin, une sœur.
Ça, c'est le tome 21.
Ouais. C'est le tome 21, ça? Putain, ouais. Je suis en train de mélanger les tomes.
Quoi. Ça, c'est le tome 21 avec l'histoire de la mine.
Ah oui. Oui, celui-là, c'est une série de petites histoires autour de Tomoe. Il va pour quitter le seigneur Noriyuki.
On va avoir justement donc Tomoe qui va, il va se passer quelques petits événements et on va avoir la cérémonie du thé. Alors ce qui est dommage, c'est presque ça, c'est d'avoir des petites cases sur dans cette version là, parce que je pense que les quelques planches de fin en grandes cases, surtout la dernière page, auraient été peut-être plus intéressantes, quoi.
Oui, avec ces panoramiques, un côté, le dernier panoramique avec juste trois mots. Non, c'est franchement... on voit... En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on sent qu'il doit s'en aller dans ce tome. Mais il faut quand même un tome pour le faire. Hein.
Ouais, mais il traîne des pieds.
Ouais, il traîne. Hein. Il traîne, le Uzagi. Parlons un peu du dessin, parce que c'est ce qui peut perturber, c'est ce qui peut, je pense, rebuter un petit peu. Alors, surtout les premiers tomes. C'était en 84, Stan Sakai a beaucoup progressé depuis, il a gagné énormément en dynamisme, en pêche, quoi. Je veux dire, son Uzagi, c'est plus vraiment le même, quoi. Maintenant, au début, il faisait un peu pâteau, maintenant, il a une classe, quoi, son Uzagi.
Peut-être aussi parce qu'on les a tous lus aussi, du coup, on trouve qu'il a une classe.
Ouais, on s'est attaché à lui.
Si je pense que voilà, si on enlevait quelqu'un.
Attends, sors le tome 1, mets-le à côté du tome 22, tu vas voir la gueule d'Uzagi, tu vas voir ce que ça va donner. Le personnage est devenu vraiment. Super attachant, et voilà, c'est tous des animaux. Alors tu vois le tome 1, la gueule qu'il a, hein, ça y est, c'est bon, il a gagné en classe, t'es d'accord?
Ouais, mais en fait, c'est vrai que le tome 1, en plus, il fait jeune.
Oui, il fait jeune, on sent que le personnage a vieilli aussi.
Uzagi, Tomoe.
Ouais,
jeune.
Jeune, ouais, c'est ça, il y a l'impression qu'ils ont vieilli avec le temps. Donc le dessin, ces animaux, ça peut perturber, et pourtant, c'est très très bien amené. Ça colle, ça tient la route. Ils jouent souvent avec le caractère. On finit par l'oublier. Il y a beaucoup de trouvailles graphiques. De temps en temps, ils utilisent. Ils mélangent la narration du manga et du comics. C'est-à-dire que dans tout ce qui est un peu action, raconté et compagnie, il est vraiment dans une narration très comics. Et de temps en temps, dès qu'il a besoin de faire des choses plus lentes, plus posées, plus zen, il part sur des grandes cases, des choses plus posées qui rappellent beaucoup plus la narration asiatique. Et puis il y a ces petits gimmicks qui font toujours rire. Moi je pense quand il tue les gens. Quand un mec meurt, il y a toujours une sorte de bulle avec un crâne qui sort. On sait qu'il est mort comme ça. Ça me fait penser à Order of the Stick. À un moment, tu sais, c'est des bonhommes bâtons. Et à un moment, il se dessine des croix sur les yeux pour faire croire qu'il est mort. Il y a ces gimmicks-là. Il y a pas mal de trouvailles. Les Tokage, qui sont donc les lézards qui sont partout.
Qui sont les animaux de compagnie, en fait.
Voilà, qui ont toujours un côté humoristique, qui sont toujours là pour être un peu drôles ou juste faire chier au milieu. Franchement, que dire de plus? Tu n'as pas beaucoup entendu. J'ai fait un long monologue, j'ai l'impression.
Mais d'une part, c'était ta splash page, donc c'est toi qui dois en parler. Hein. Maintenant, c'est toi qui as eu la chance de rencontrer Stan Sakai, qui nous a fait une super interview très intéressante de lui, que nous avons eu la chance d'écouter. Que dire de plus ? Au départ, j'accrochais pas du tout à Usagi. Quand tu me les as passés, j'étais pas... Je me l'ai passé, voilà, je dis, bref, bon, bah, écoute, on va le lire, quoi. Hein. Et au final... Alors, il y a des passages en 22 tomes, bon, mais il y en a qui sont plus ou moins bien, hein, mais il y a des passages pour moi qui restent, voilà, mémorables. Hein, l'épée légendaire, tout cet arc-là était super bien mené, c'était super intéressant.
Tout le voyage avec son fils.
Tout le voyage avec voilà, il y a des moments d'extrême richesse dans cette série, et on découvre petit à petit un Japon qu'on ne connaît pas, parce que c'est le Japon médiéval, alors c'est vrai que. C'est pas la période qu'on peut le mieux connaître, nous.
Puis c'est un côté didactique. Il y a un côté didactique en plus, volontairement, qu'un Japonais n'aurait pas parce que, je veux dire, tu vas pas expliquer comment ça marche un château fort au Moyen-Âge dans une série sur le Moyen-Âge parce qu'on le fait en cours, quoi.
Ouais.
On n'a pas besoin qu'on nous explique. Bon, bah là, il nous explique comment marche le Japon. Et.
Non, c'est super intéressant. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a 22 tomes à se faire.
Ils sont pas si chers que ça pour du manga, c'est format manga. Bah c'est le prix d'un manga. Hein. Le dernier est un peu plus cher. Le premier était à 4 euros.
3,95€. Je sais pas en quelle année c'était, mais.
Ouais, donc ça a dû augmenter un peu, je pense. C'est le prix du papier et tout ça. Mais bon, ils avaient fait un prix d'appel très très fort, quoi. Autant paquets parfois peuvent faire des prix très très chers sur certains bouquins, autant de temps en temps, quand ils veulent mettre quelque chose en avant, ils font ce qu'il faut, quoi. Au point que maintenant je regarde plus le prix quand j'achète un Usagi Yojimbo, je veux dire.
2005.
Ouais, 2005.
Si t'arrives à 6 euros, c'est quand même que t'as quand même doublé le prix, quasiment le prix par deux. Hein.
Ouais. Online. Bon, je crois que l'émission a été assez longue. On va se faire un petit online un petit peu minimaliste. Hein. Je vais vous parler de Macadam Valley par Ben. Macadam Valley, c'est des strips qui sortent assez régulièrement, qui sont très simples, un dessin noir et blanc, dynamique, péchu, un petit peu rond, un peu rigolo. Et c'est beaucoup d'humour absurde, parfois un peu cynique. Pas mal de strips, moi, qui m'ont beaucoup amusé. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. En tout cas, je vous recommande fortement d'aller y jeter un œil. C'est très vite fait. Parmi les blogs de gags courts qui en ce moment ça fait partie de mes préférés.
Tout à fait. Moi je suis à fond dessus. Tu me connais, comme je suis très souvent sur internet. D'ailleurs récemment j'ai flambé mon quota et c'est vrai que j'ai vraiment apprécié ce site que tu m'as fait découvrir il y a environ 30 secondes.
Merci de nous avoir écoutés, c'était un réel plaisir de faire cette émission ensemble. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour une émission tout ce qu'il y a de plus à fait normal, où nous parlerons de bande dessinée pour changer.
On vous fait un petit
teasing.
Allez, Shutterbug Follies.
Tu mourras moins bête.
Tu mourras moins bête. Les âmes nomades.
Un Torgal,
yes.
Les Indociles
et des...
Des, ouais, on reviendra peut-être sur les deux tomes. Parce que je ne sais plus si on avait parlé du premier, j'ai un doute.
Non, on n'avait pas parlé du premier.
Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que nous avons notre concours qui est quand même la classe. Quoi. Vous avez vu, vous avez écouté une émission exceptionnelle. Vous pouvez vous dire, oh, il faut qu'on fasse un truc trop exceptionnel pour parler d'eux. Toutes les infos, bien sûr, sont sur le site du concours. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires et des étoiles sur iTunes parce que c'est ce qui nous permet d'être remarqués au milieu de tout le monde. Genre, par exemple, iTunes, on fait un truc sur la sélection BD où il n'y avait que des blogs en anglais et des blogs de radio, sachant qu'il existe quand même... Je ne parle pas forcément que de nous, mais il existe pas mal de podcasts BD et dans le néant.
Ils ont même pas parlé d'un truc français ?
Si, il y a des trucs français, mais c'est France Info. C'est des émissions, des podcasts.
Ils sont bien, sont... mais.
Voilà, dans les indés, il y avait des trucs à dire, quoi. Je pense à. Ne serait-ce que Comic City. C'est pas. Il y en a qui sont là depuis un moment, quoi.
Surtout Comic City, c'est des pros, quoi.
Ouais, ils maîtrisent. Et à côté de ça, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur la page Facebook, qui a changé de gueule d'ailleurs il y a peu de temps, la page Facebook.
Ah bon ?
Ouais, c'est changé. Enfin bref.
Je suis pas allé jusqu'à Facebook, tu vois.
Bref, ne faites pas comme Thio, allez sur internet et dites que vous nous aimez. On vous dit dans 15 jours. Ciao.
Stan Sakai,
Stan Sakai.